Première partie. D'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois, qu'un sans plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. Ainsi s'exprimait Ulysse d'Homère, parlant en public. S'il n'eût rien ajouté, d'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois. C'était si bien dit que rien n'aurait pu l'être mieux, mais alors qu'il aurait dû justifier son raisonnement en disant que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès lors qu'il prend le titre de maître, est dure et déraisonnable, il est allé ajouter tout au contraire qu'un sans plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. Il en faudrait éventuellement excuser Ulysse, qui peut-être à ce moment avait besoin d'user de ce langage pour apaiser la révolte de l'armée, conformant, je crois, son propos plus aux circonstances qu'à la vérité. Mais si l'on veut parler à bon escient, c'est un extrême malheur d'être sujet à un maître dont on ne peut jamais être certain qu'il sera bon, puisqu'il est toujours susceptible d'être mauvais quand il le voudra. Et avoir plusieurs maîtres, c'est autant qu'on en a, être autant de fois extrêmement malheureux. Aussi, je ne souhaite pas pour l'heure débattre de cette question tant discutée, de savoir si les autres formes de gouvernement sont meilleures que la monarchie. Encore voudrais-je savoir, avant de m'interroger sur le rang que doit avoir la monarchie parmi les régimes politiques, si elle doit en avoir un, car il est malaisé de croire qu'il y ait quelque notion du bien commun en ce gouvernement où tout appartient à un seul. Mais cette question est réservée à un autre temps, et demanderait bien son traité à part, ou plutôt amènerait avec elle d'infinies discussions politiques. Pour le moment, je ne voudrais que tâcher de comprendre comment il peut arriver que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire que tant qu'ils en manifestent la volonté, qui ne saurait leur faire du mal que lorsqu'ils aiment mieux l'endurer que s'opposer à lui. Grande chose, certes, est toutefois si commune qu'il faut d'autant plus s'en affliger et moins s'en ébahir. Voir 1 million d'hommes servir misérablement, ayant la nuque sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais d'une certaine façon, semble-t-il, ensorcelés et charmés par le nom seul d'un individu, duquel ils ne doivent ni craindre la puissance, puisqu'il est seul, ni aimer les qualités, puisqu'il est en leur endroit inhumain et sauvage. La faiblesse d'entre nous, hommes, est telle qu'il faut souvent que nous obéissions à la force. Il est besoin de temporiser. Nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Donc si une nation est contrainte par la force de la guerre de servir un seul, comme la cité d'Athènes aux 30 tyrans, il ne faut pas s'ébahir qu'elle serve, mais déplorer l'accident. Ou bien plutôt, ni s'en ébahir ni le déplorer, mais supporter le mal patiemment et s'en remettre à l'avenir pour un sort meilleur. Notre nature est ainsi faite, que les communs devoirs de l'amitié emportent une bonne partie du cours de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les beaux faits, de reconnaître le bien d'où on l'a reçu, et de diminuer souvent notre aise pour augmenter l'honneur et l'avantage de celui qu'on aime et qui le mérite. Ainsi donc, si les habitants d'un pays ont trouvé quelques grands personnages qui leur aient montré dans l'épreuve une grande prévoyance pour les protéger, une grande hardiesse pour les défendre, un grand soin pour les gouverner, si dès lors ils décident de lui obéir et de se fier assez à lui pour lui donner quelques avantages, je ne sais si ce serait faire preuve de sagesse, d'autant qu'on l'ôte de là où il agissait bien pour l'avancer en un lieu où il pourra mal faire. Du moins il ne pourrait manquer d'y avoir de la bonté dans le fait de ne craindre aucun mal de celui dont on n'a reçu que du bien. Mais, ô Dieu, qu'est-ce que cela peut être? Comment dirons-nous que cela s'appelle? Quel malheur est celui-là? Quel vice? Ou plutôt quel malheureux vice? Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas être gouvernées, mais tyrannisées, n'ayant ni bien, ni parents, ni femmes, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait perdre son sang et d'abord sa vie, mais d'un seul, non pas d'un Hercule, ni d'un Samson, mais d'un seul homo. et le plus souvent le plus lâche de toute la nation. Non pas d'un homme accoutumé à la poussière des batailles, ni même à peine au sable des tournois, non pas d'un homme capable par sa force de commander des hommes, mais d'un homme tout empêtré à se faire l'esclave de la moindre courtisane. Appellerons-nous cela de la lâcheté? Dirons-nous que ceux qui servent sont couards et affaiblis? Si deux, si trois, si quatre ne se défendent pas contre un seul, cela est étrange, mais toutefois possible. On pourra alors dire, à bon droit, que c'est faute de courage. Mais 600, 6000 souffrent par la faute d'un seul. Ne dira-t-on pas qu'ils ne veulent point, et non qu'ils n'osent s'en prendre à lui, et que c'est non de la couardise, mais plutôt du mépris ou du dédain? Si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes n'assaillir pas un seul, dont le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serf et esclave, comment pourrons-nous nommer cela? Est-ce lâcheté? Or, il y a en tout vice naturellement quelques bornes que l'on ne peut dépasser. 2, et peut-être 10, peuvent en craindre un seul, mais 1000, mais 1 million, mais 1000 villes, si elles ne se défendent pas d'un seul, cela n'est pas de la couardise, car elles n'iraient pas jusque-là, tout comme la vaillance ne va pas jusqu'au point qu'un seul homme puisse donner l'assaut à une forteresse, qu'il assaille une armée, qu'il conquiert un royaume. Quel monstre de vice est-ce donc qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom suffisamment vil, que la nature désavoue avoir fait et que la langue refuse de nommer? Qu'on mette d'un côté 50 000 hommes en armes, d'un autre autant, qu'on les range en bataille, qu'ils viennent à s'affronter, les uns libres combattants pour leur liberté, les autres pour la leur ôter. Auxquels promettra-t-on par conjecture la victoire? Lesquels, pensera-t-on, iront le plus gaillardement au combat? Ceux qui espèrent pour récompense de leur peine le maintien de leur liberté? Ou ceux qui ne peuvent attendre des coups qu'ils donnent ou qu'ils reçoivent d'autres loyers que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée, l'attente de pareille aise à l'avenir. Ils ne se souviennent pas tant de ce qu'ils endurent le peu de temps que dure une bataille que de ce qu'il leur faudra à jamais endurer, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont rien d'autre pour les enhardir qu'une petite pointe de convoitise qui s'altère soudain en présence du danger et qui ne peut être ardente que jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, semble-t-il, à la moindre goutte de sang sortant de leur plaie. Lors des batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui ont eu lieu il y a 2000 ans et qui sont encore aujourd'hui aussi fraîches en la mémoire des livres et des hommes, comme si c'eût été hier, qui furent donnés en Grèce pour le bien des Grecs et pour l'exemple du monde entier, qu'est-ce qui donna, pense-t-on, à un si petit nombre de gens, comme étaient les Grecs, non le pouvoir, mais le courage de soutenir la force de navires si nombreux que la mer même en était recouverte, de défaire tant de nations qui étaient en si grand nombre que l'escadron des Grecs n'eût pas fourni s'il eût fallu des capitaines aux armées des ennemis. Il semble en fait qu'en ces glorieux jours-là, ce qui comptait n'était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'émancipation sur la convoitise.
Ceasefire.
Ireland.
Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on! Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Freedom, yeah!
dream about peace.
Freedom in the European East, baby.
Not just the European East.
I want some freedom to smoke some herb.
Smoke some herb.
I want some freedom to do what I want.
Do what I want, baby.
Freedom to cry.
Freedom to cry. Freedom to lie.
Freedom to lie.
Freedom of love, baby.
Love, baby. Love, baby.
Freedom of love.
God above.
God above.
God above.